L'amour sut de telle sorte à me faire en moi ton portrait, que le peintre le plus doué si parfaitement ne saurait une telle image gravée. Tu as été par l'amour créé.
Vous écoutez À l'école de l'oraison, le balado des écoles carmélitaines d'oraison du Québec, saison 2024-2025, intitulé « Faire oraison, c'est » trois petits points, cinquième épisode, janvier 2025, « Quand je fais oraison, je parle tout bas ». Cet enregistrement a été réalisé lors de la soirée mensuelle sur Zoom. Vous pouvez suivre l'actualité des écoles d'oraison sur le site www.lecarmel.org, section « Frères », onglet « Activités ». Bonne écoute.
Je le sais, tu te trouveras dans mon sein figuré, et si vivement saisi, quand te voyant, il te plaira de te voir si accompli. Si par hasard tu ne savais pas en quel endroit me trouver, ne t'en va pas de ci, de là, mais si tu veux me trouver, oh moi, ne me cherche qu'en toi.
Quand je fais oraison, je parle tout bas. Je me suis demandé comment j'allais intituler cela. Quand je fais oraison, je parle. Et j'ai immédiatement écrit, j'ai mis un titre tout bas. Je rappelle, pas simplement pour ceux et celles qui seraient là pour la première fois, mais pour qu'on se trompe pas pas de cible, mais pour bien nous remettre dans le bain, dans le thème qu'on a choisi cette année, faire oraison, c'est... C'est parler, c'est se taire, c'est... Je sais plus ce que j'ai mis, parce que de toute façon, c'est pas exhaustif, là. La dernière fois, c'était quand je... faire oraison, c'est pleurer. C'est bon. Peut-être qu'on trouvait ça pas très drôle, mais... L'objectif... Enfin, pas l'objectif, la tentative, c'est juste de décrire. Hein, c'est de décrire ce qui se passe. C'est pas de dire ce qu'on envisage de faire. C'est pas de réciter des choses qu'on saurait déjà, etc. C'est vraiment de décrire des choses qui se produisent ou pas. Ou pas. Il y a plusieurs fois, quand on avait parlé du silence, j'avais décrit ce qui peut se présenter, se produire, être notre expérience durant l'oraison. Je m'appuie pas que sur moi-même, ce sera un peu limité là, mais de manière beaucoup plus large. Et puis on avait une discussion, et puis c'était avéré que l'une ou l'autre avait dit, bah, moi, c'est pas exactement comme ça. Et c'est bien normal. Mais l'idée de fond, la tentative, l'intention, j'espère que cette toux ne va pas trop gêner, l'intention, c'est de décrire ce qui nous arrive dans l'oraison, parce que l'oraison, c'est d'abord quelque chose qui nous arrive et dans quoi nous trouvons, à un certain point de vue. Hein ? Ce qui est une proposition très simple, mais c'est important de toujours se le rappeler. Faudrait certainement pas qu'on s'imagine un jour que là c'est correct, là on sait faire oraison. Du reste, on n'apprend pas à faire oraison. Faisant oraison, on apprend bien des choses, mais c'est pas comme telle l'oraison qu'on apprend à faire, comme quelque chose dans lequel on progresserait en maîtrise, etc. C'est simplement que faisant oraison, en s'engageant sur le chemin de l'oraison, sur cette façon d'exister finalement, d'être avec Dieu, avec les autres, avec le monde, avec soi-même, eh bien, on en apprend. On en apprend. Mais ce sera jamais la pratique de l'oraison qui est le centre, parce que c'est comme quand vous marchez dans la campagne, l'intérêt, c'est pas la marche, là, t'es mécaniquement parlant, c'est tout ce qui se produit. Alors, ceci étant rappelé, il n'empêche que donc je cherchais, donc quand je fais oraison, pas je, forcément moi, Frère Martin, quand je fais oraison, je parle. Mais j'ai quand même rajouté tout de suite tout bas, et puis je reviendrai là-dessus. Je voudrais d'abord vous citer une réflexion que Christiane Singer met dans la bouche d'Héloïse. Christiane Singer, qui est peut-être une personne, une personnalité, une figure que d'aucuns d'entre vous connaissent, a beaucoup écrit. Elle a écrit entre autres choses, un très beau livre qui s'appelle « Où cours-tu ? Ne sais-tu pas que le ciel est en toi ?»« Où cours-tu ? Ne sais-tu pas que le ciel est en toi ?» Très très beau livre. Je pense que ce titre est une adaptation d'un poème d'Angelus Silesius, on est au XVIe siècle. Elle a aussi écrit, elle a laissé derrière elle un très beau récit qui s'appelle « Dernier fragment d'un long voyage », hein, qui est le récit de, ben, de ces derniers mois, puisqu'elle est morte d'un cancer. Elle a laissé quelque chose qui est absolument magnifique. Bon. Ça, c'est un peu pour situer le personnage. Or, Kristen Singer a écrit un très beau roman, qui en fait est une très longue lettre que Héloïse adresse à Abélard. Héloïse et Abélard, ça vous dit peut-être quelque chose, on est cette fois au XIIe siècle, à la même époque que Saint Bernard. Ce sont des personnages historiques. Kristen Singer a écrit, alors ça s'appelle, c'est là que je voulais être sûr de mon titre, Une passion entre ciel et chair. Une passion entre ciel et chair. Alors, bon, le roman, on peut en discuter si on veut, mais ce qui m'intéresse, j'ai un petit peu puisé, je l'avais dans mes carnets, je pige, il y a beaucoup de choses très belles, elle a un style magnifique, et je pige cette remarque qu'elle fait, que Héloïse fait. En passant, pour quand même un tout petit peu la situer, Héloïse est une jeune femme. Quand elle écrit, elle est déjà une religieuse qui n'est pas à la fin de sa vie, mais quand même. Elle est un petit peu plus jeune qu'Abélard. Elle est absolument brillantissime. Abélard était lui-même un homme brillant, venu comme enseignant à Paris, à ce qui sera un tout petit peu plus tard la Sorbonne, mais à l'époque, la Sorbonne n'existe pas. Elle existait à partir de 1209. Et puis, ce qui devait arriver, arriva, pour plein de raisons. Héloïse, Abélard tombent amoureux. Mais après, l'histoire s'emballe parce que l'oncle qui élève Héloïse, il n'est pas tout à fait d'accord, puis ça se passe de manière très violente. Et puis à tout cela va s'ajouter le fait que Abélard est un homme à la fois brillant et un tout petit peu orgueilleux quand même, on ne se le cachera pas, et puis qui s'est un petit peu entêté dans un certain nombre de choses où il avait peut-être raison. Or, Héloïse lui écrit une très belle lettre, donc Héloïse, elle est rentrée au couvent, pas par dépit, mais parce que c'était aussi une femme avec une vie spirituelle et mystique très profonde, bah, ce qui n'oblige pas de rentrer au couvent, évidemment, là. Mais en tout cas, elle, c'est ce qui s'est passé pour elle. Un monastère qu'elle avait fondé, du reste. Et tout ça, c'est vrai, hein, c'est authentique. Et Héloïse, alors c'est comme ça que Christian Singer met les choses en place, mais je crois que c'est assez proche, effectivement, de ce qu'on peut comprendre d'Héloïse. Héloïse développe toute une spiritualité beaucoup plus riche, beaucoup plus complète. Beaucoup plus incarné aussi que Abélard, pour qui, y compris la passion, se passait à peu près entre là et là. Hein. Il n'y avait pas grand-chose d'autre dans la vie. En tout cas, il s'est beaucoup blindé, le monsieur. Et Héloïse, au détour de cette longue lettre à Abélard, écrit ceci. D'où est née l'aberration qui nous fait professer que toute pensée que nous ne consacrons pas à Dieu lui est volée. Que toute énergie qui n'est pas dirigée vers lui nous rend coupables. Dieu serait-il une meule que les mulets que nous sommes font tourner? Je vous relis, elle écrit, elle a une plume magnifique. Mais c'est pas. Il faut une plume magnifique pour exprimer des choses qui sont très fines. Je vous le relis. D'où est née l'aberration qui nous fait professer que toute pensée que nous ne consacrons pas à Dieu lui est volée, que toute énergie qui n'est pas dirigée vers lui nous rend coupables. Dieu serait-il une meule que les mulets que nous sommes font tourner? Pourquoi je commence par ça? Parce que ce que Christiane Singer, au travers d'Héloïse, développe ici, parce que Christiane Singer était une femme très très complète et qui ne peut pas concevoir qu'on retranche quelque chose à la beauté du monde, qui ne peut pas non plus concevoir qu'on enlaidisse le monde, et qui ne peut pas non plus concevoir, il y a deux choses qu'elle ne peut pas concevoir, que la vie spirituelle soit une vie monomaniaque centrée sur Dieu, mais centrée de façon exclusive, et qui ne peut pas non plus concevoir que la vie dans toute sa beauté soit une vie sans Dieu, et sans Dieu vivant. Sans une relation avec lui. Alors, pourquoi j'ai cité cela? Pas simplement parce que c'est beau et bien écrit et que ça a plein de sens, mais parce que ça n'est pas sans rapport avec ce qui nous arrive quand on fait oraison. Ben on parle. Et cette phrase de Christian Singer, elle nous invite à. D'abord à accepter le fait de cette parole intérieure. C'est pour ça que j'ai dit tout bas. Là, je ne vais pas vous citer un deuxième poète, mais je l'ai trouvé tout à l'heure, je l'ai retrouvé dans mes affaires. Bah si, quand même, d'ailleurs. J'ai retrouvé, c'est au début d'un de mes cahiers, c'est assez facile à retrouver. Il s'appelle, enfin un peu au début, il s'appelle Philippe Jacotet, cette fois, c'est un poète suisse. Alors c'est un petit peu plus tourné, mais J'aime beaucoup ce qu'il écrit. Au détour d'un carnet, elle écrit la chose suivante. Il écrit la chose suivante. Et par une autre oreille que la terre grande ouverte, soit recueillie plus haut, non pas plus haut, ailleurs, pas même ailleurs, soit recueillie peut-être plus bas, comme une eau qui s'enfouit dans la poussière du jardin, comme le sang qui a disparu, fourvoyé dans l'inconnu. C'est une poésie un peu plus. Mais pourquoi je vous la cite? Parce que dans le fond, il y a des résonances. Il y a ce fait que nous retrouvons pas seulement dans la prière, mais que nous retrouvons particulièrement dans la prière, ce fait que nous parlons. Et dans la prière, nous parlons pas à voix haute. Quoique j'y pensais tout à l'heure, quoique, et on se l'est déjà dit, l'intérêt que nous avons de pouvoir de temps en temps faire oraison dans un lieu qui est absolument fermé où nous sommes seuls, c'est que s'il arrive, je dis s'il arrive parce que je ne sais pas comment ça arrive, je sais que ça arrive, mais je ne sais pas comment ça arrive, s'il arrive que parlant tout bas, je me mette à parler tout haut, bah ça m'est possible. Enfin, parce que vous le savez, je l'ai déjà dit, moi dans la chapelle, si je me mets tout d'un coup à parler tout haut, ça va faire bizarre. Parce qu'on est actuellement, on est six frères. C'est sûr qu'il y en a cinq autres, bah, peut-être pas celui qui dort, mais les quatre autres, ils vont faire le saut. Ils vont se poser des questions. Sur mon état mental, non, parce qu'ils sont déjà au courant de tout, mais sur la situation présente, oui. Mais là, je m'amuse à vous faire rire, mais ce n'est pas l'idée. Au travers de l'aspect un peu cocasse, ce qui m'intéresse, parce que je pense que c'est quelque chose qui nous arrive, pas tous les matins. La première chose qui nous arrive, c'est que dans le fond, il ne s'agit pas de nous épier nous-mêmes, mais si nous revenons un peu sur notre prière, nous réalisons que nous parlons intérieurement. Et peut-être, plus rarement, mais peut-être en des situations décisives, nous est-il arrivé que cette parole, soudain, soit à haute voix. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Cette question de la parole qui passe à haute voix, c'est pas un cas limite, c'est pas ça, mais c'est un petit peu particulier. Ça peut être sous l'effet de la colère, comme de la joie, comme de ça. C'est pas forcément, c'est pas limité, si vous voulez, à quelque chose de bien précis, mais ça peut se présenter. Et quand je dis que ça peut se présenter, c'est que c'est encore une résurgence de quelque chose de plus simple et de plus bas, comme dit Philippe Jacotet, qui est cette parole, nous parlons. Et j'ajoute tout de suite un deuxième élément, c'est que dans la prière, quand nous parlons, nous n'avons pas à chercher à qui nous parlons. Je ne suis pas en train de dire que par l'effet du catéchisme, nous savons que Dieu est absolument partout et qu'il nous écoute constamment. Ce n'est pas ça. C'est que quand nous prions, d'entrée de jeu, nous n'avons pas besoin d'entrer en matière, nous n'avons pas besoin. Même lorsqu'on est avec un ami, on s'enquiert, on se dit des choses, quoi. Il est un fait, et là encore, je ne fais que décrire. Ce n'est pas des déductions que je fais de l'idée d'un Dieu tout présent, etc. Dont on a vu d'ailleurs que c'était un peu curieux. Non, non, je décris et je constate. Je constate que lorsque nous nous mettons à prier, parler, nous nous adressons directement à lui. Y compris pour peut-être dans la suite avoir le sentiment qu'on parle dans le vide. Ça se présente aussi. Et là aussi, je décris ce qui nous arrive. Il nous arrive parfois de plus être capable de parler, que notre parole prière se perd, balbutie, trébuche, peine. Patauge. Ou d'autres fois qu'elle est intérieurement dépassée, elle est excédée par un sentiment plus fort, qui n'est pas forcément du reste un sentiment de peine, de tristesse, de douleur, qui peut être un sentiment de joie, d'étonnement, d'enthousiasme, que sais-je. Mais au travers de ce phénomène tout à fait curieux, que je constate, que priant, l'une des premières choses que je fais en général, c'est de parler. Et encore une fois, je ne cherche pas. Alors c'est pour ça que je parlais de je parle tout bas, c'est pas exactement en rapport, en référence avec le fait de parler à voix haute. Je parle toujours de cette parole intérieure qui n'est pas que de la prière. Il nous arrive de nous parler intérieurement, c'est pas de la prière. Et on n'est pas fou. Hein, comme disait l'autre, tant que vous vous parlez tout seul, tout va bien. Si vous imaginez que quelqu'un d'autre vous répond, c'est que là, il faut envisager une. Mais c'est important parce que je voudrais aussi, et ça c'est quelque chose qui est très très présent chez les poètes, d'ailleurs, c'est pour ça que je les cite souvent, c'est que nous sommes très 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 loin de la parole entendue comme la façon de communiquer. Parce que là, en l'occurrence, c'est pas une question de communiquer, je ne suis pas dans un discours. L'autre chose que je veux dire aussi, c'est que disent les poètes, ou du moins qu'ils cherchent sans cesse à nous ramener là-dessus, c'est que nous en apprenons tellement à être dans la parole et à être parlant sans maîtriser cela. Non seulement on ne maîtrise pas les mots, mais on ne maîtrise pas non plus le fait de parler. Et c'est important parce que dans l'oraison, c'est on ne met pas en œuvre un dispositif oratoire en vue de capter l'attention et éventuellement la bienveillance de celui qui est en face. Ça, on peut le faire pour un ami. On peut le faire quand on cherche à faire la conquête de son futur conjoint et de sa conjointe, etc., ou tout ce qu'on veut, ou on cherche à persuader un fils ou une fille qui va faire à peu près n'importe quoi, ou en tout cas pas ce qu'on veut. Mais ça, c'est de la stratégie oratoire. C'est pratique dans la vie, hein. Mais c'est pas la plus grande profondeur de la parole. Et c'est curieux parce que paradoxalement, en l'occurrence, la parole, elle est un tout petit peu solitaire, ou plutôt le seul qui entend vraiment cette parole, c'est Dieu. Et c'est tout à fait particulier. C'est même pas moi. Parce que c'est plus profond de parler dans la prière que de se parler à soi-même, même si c'est très important d'être capable. Il y a des gens qui sont malades du fait qu'ils ne sont pas capables de se parler à eux-mêmes. Hein. Ils ne sont pas capables de parler. En fait, s'ils ont de la misère à parler aux autres, c'est qu'il y a déjà un problème psychologique dans cette capacité qui n'a rien à voir avec la folie de parler, de réfléchir, de, etc. J'ai failli pas le retrouver. Je prends un texte que vous connaissez peut-être. Moi, curieusement, je ne connaissais pas, alors qu'il est juste après un passage très célèbre. Nous sommes au deuxième livre de Samuel, au chapitre 7, verset 18. Alors, pas la peine d'ouvrir vos Bibles, je vous mettrai la référence quelque part. C'est juste après un texte que là, vous connaissez. Je vous lis ce qui précède, parce que ça, en revanche, vous le connaissez, c'est lu à la liturgie, puis on le connaît. Lorsque le roi, il s'agit de David, lorsque le roi fut installé dans sa maison, que le Seigneur lui accordait le repos, le roi dit au prophète Nathan, tu vois, je suis installé dans une maison de cèdre, tandis que l'arche de Dieu est installée au milieu d'une tente de toile. Et Nathan dit au roi, tout ce que tu as l'intention de faire, va le faire, car le Seigneur est avec toi. Or, cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan en ces termes, va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que je m'y installe? Non, non, c'est moi. Parce que c'est moi qui suis allé te chercher, etc. C'est la longue prophétie que Nathan va répéter le lendemain même à David. Qui explique, c'est une façon d'expliquer que David n'a pas construit le temple, mais que c'est son fils Salomon qui l'a construit. C'est un passage relativement célèbre, on l'a d'ailleurs durant le temps de l'Avent, hein, avant les annonces à Marie, à Joseph, à Zacharie, etc. Parce qu'il y a évidemment un rapport avec Jésus. Bon, ça c'est connu. Ce qui est moins connu, c'est le passage suivant, d'ailleurs moi je l'avais toujours joyeusement esquivé. Toujours au chapitre 7, au verset 18. Et je commence par le début parce que c'est ça ce qui m'a marqué un matin. Le roi David vint s'asseoir en présence du Seigneur et déclara, qui suis-je, Seigneur Dieu, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? Or, c'est encore trop peu à tes yeux, Seigneur Dieu. Tu as parlé, alors je vais prendre une autre traduction là. Tu as aussi parlé de l'avenir lointain de ma maison. Seigneur Adonai, est-ce normal? C'est la traduction de Bayard. J'aime beaucoup cette traduction qui est fondée en hébreu. Hein. Alors, alors, je m'arrête là, mais en fait, ça dure durant plusieurs versets, et d'ailleurs, il n'y a pas de réponse de Dieu. Mais la première chose étonnante, c'est ça, c'est le roi David, alors évidemment, il faut lire en contraste avec ce qui précède, hein, Nathan qui arrive, qui lui dit, stop, arrête tout, cette nuit, j'ai eu un message pour toi, puis ça sert à rien que tu construises, parce que blablabla. Bon, super, point. Et puis, verset 18, le roi David vint s'asseoir en présence du Seigneur, et déclara, qui suis-je, Seigneur Dieu, et quelle est ma maison? Je ne sais pas comment vous vous l'imaginez, mais ce n'est pas la peine de se l'imaginer dans le temple, parce que de toute façon, il n'y en a pas. Comme ça, c'est réglé. Est-ce qu'il est allé à l'attente de la rencontre? On ne le sait pas. Mais je propose de le prendre plutôt que de se poser des questions historiques auxquelles on n'est pas capable de répondre. Je propose de l'entendre très simplement. Exactement comme bah, je fais ça parce que moi tout à l'heure j'étais assis par terre dans ma cellule là. Chacun, chacune d'entre nous vint s'asseoir en présence du Seigneur et puis se mit à parler. Parce que c'est ça ce que fait David. C'est exactement ce que fait David. Et puis il parle un certain temps. Et puis évidemment, on peut toujours penser que c'est un monologue, mais ce n'en est pas un. C'est pas parce qu'on n'a que les paroles de David que c'est un monologue. Quand quelqu'un m'accorde son oreille attentive, un ami, une amie, un conjoint, un père, une mère, un fils, qui sais-je, que sais-je, son silence évidemment ne veut pas dire que c'est un monologue. Il y a d'autres fois, on subit des monologues, hein, ça c'est, on est d'accord là-dessus. Mais on sait bien faire précisément, on sait faire la différence. Donc ça, c'est entendu. C'est pour ça que je voulais vous citer ce texte, à cause de ce caractère direct, le roi David vint s'asseoir en présence du Seigneur et déclara. Il se met à parler. Or, et ça c'était le chant que je vous ai utilisé tout à l'heure, et que si vous priez un tout petit peu la liturgie des heures, pour le coup, vous allez tout de suite voir où je veux en venir, le psaume 62, qui est quand même l'un des psaumes qu'on prie le plus souvent dans la liturgie des heures au Laude, on le prie, je ne me souviens plus, je crois que c'est 70 fois par an, 70 matins sur 365, ça fait quand même pas mal. Hein, Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Je reste des heures à te parler. Je reste des heures à te parler. C'était il y a quelques mois, je savais déjà que j'allais vous parler de ça, que un matin au Laude, ça m'a frappé en pleine face. Je reste des heures à te parler. Il y a quelque chose là qui ne s'explique pas. Et c'est pour ça, j'en reviens à mon ami Christian Singer, c'est pour ça que je vous ai cité Christian Singer. Parce que la question, ce n'est pas de savoir ce qu'on dit. La question, c'est se laisser la liberté de parler. Et que la chose la plus importante dans cette parole, pas dans cette parole, parce que parole, on pense au contenu, mais dans ce je parle, plus encore dans ce je te parle, tout bas, ce qui compte, c'est que je te parle. Ça dure des heures. Je reste des heures à te parler. Alors, mais j'ai pas fini mon idée. Pourquoi Christian Singer? Parce que tout ce qui, si j'ai pris cet extrait de Christian Singer, c'est que toute la lettre et toute la méditation d'Héloïse, elle est entre autres tissée, ces plusieurs brins, comme une tapisserie, c'est très riche, hein, Christian Singer. C'est entre autres tissé de ce fil qui dit, mais. Alors c'est Louise qui parle, mais on a l'impression d'entendre Christiane. Et Louise qui parle, qui dit, dès tout jeune, j'ai appris que derrière chaque chose, et derrière l'évocation de chaque chose, et derrière le poème de chaque chose, tu es là, mon Dieu. Et que lorsque c'est moi, parce qu'en plus Louise avait des talents, lorsque c'est moi qui compose le chant, lorsque c'est moi qui dessine, tu es là. C'est pas toi que je dessine, voilà, c'est moi qui bosse, c'est pas toi que je dessine, mais tu es là. Derrière, en fait, Christian Singer, qui, je ne sais pas si elle étudie la théologie, mais elle a une théologie, c'est clair, elle a une théologie de la création qui est très forte. Nous avons notre liberté de créature dans la création. Tout ce que nous goûtons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous sentons, tout ce que nous éprouvons de la création, pour autant que c'est ajusté à la beauté de la création. Y compris lorsque la création souffre, parce qu'actuellement, en termes de souffrance, c'est pas pire, là. Enfin, d'ailleurs, si, ça peut être pire, c'est ça le pire. Tout ça, c'est ce qui fait de nous des êtres vivants, et non seulement des êtres vivants, mais des fils, des filles de Dieu. Et c'est ça ce qui court au travers du texte de Christiane, c'est que notre dignité, c'est pas seulement que nous sommes capables de penser à Dieu. Notre dignité, c'est que nous sommes capables de recevoir tout ce qui est, tout ce qui vit, et y compris tout ce qui souffre, tout ce qui voit justement sa beauté d'être déniée, bafouée, déchirée, et que tout cela, nous le vivons dans la relation à Dieu. Ce serait terrible que, aimant Dieu, son œuvre ne nous intéresse pas plus que ça. Or, là, ce que je vous dis là, c'est un propos théologique, mais je le prends pas comme un propos théologique, je le prends beaucoup plus simplement. Tout ce qui, et ça on l'a déjà évoqué, quant au sentiment qui nous habite à l'oraison, ce je parle, ce je te parle dans la prière, Il charrie comme un fleuve, mais parfois c'est beaucoup plus modeste, hein, c'est plutôt un petit ruisseau là. Il charrie, il porte, il véhicule, il remet aussi au jour des choses, des personnes, des situations, des êtres, bien des affaires. Au moment même où je les parle à Dieu, je les parle avec Dieu, j'en retrouve encore la beauté. Et en même temps, je tisse plus serré ma relation à Dieu. Il n'y a pas de partage. Elle a quand même le don des formules, hein, mais je vous relis quand même la dernière phrase, c'est génial. Dieu serait-il une meule, sympathique, Dieu serait-il une meule que les mulets que nous sommes font tourner? C'est-à-dire que toutes nos facultés n'auraient de valeur que de faire tourner une roue, que de faire tourner une meule. Il y a quelque chose dans le fait de je te parle qui dépasse tout projet. Qui dépasse, puis qui en même temps est avant tout projet. Parce que quand arrivant en prière, je me mets à parler, j'ai pas de projet, j'ai pas envie de dire quelque chose. Mais se parler, enfin, vous l'écrivez comme vous voulez, se parler est déjà, et en fait, comme le terreau, si vous voulez, ou comme le fleuve porteur de ma relation à Dieu. Et il y est avec moi. Il y est avec moi. Je reste des heures à te parler. Alors certains vont dire, bah, moi en fait, quand je parle, quand je prie, je n'ai pas l'impression de parler. Je vous rappelle juste, premièrement, c'est pas parce que je suis bavard que je parle beaucoup à l'oraison. Là, je tiens tout de suite à le dire. Parce que pour l'anecdote, s'il y en a qui l'ont jamais entendu, mais quand j'étais au noviciat il y a déjà un peu plus de 25 ans, là, je me souviens, c'était dans le minivan aux rentrées d'une récréation, d'une sortie, d'une promenade du lundi dans les marais de la Camargue. Et je ne sais pas pourquoi, mais le père maître sort. Moi, j'aimerais bien être dans l'oraison de Martin pour savoir ce qu'il raconte. Et un autre ajoute, mais de toute façon, je ne pense pas que Dieu puisse en placer une. C'est pas très sympa parce que c'est assez faux. Et si je le dis, non, mais je vois que ça vous fait rire, mais si je le dis, c'est que j'ai déjà parlé à de très bons amis à ce sujet, bah, pas de moi, là. Mais de cette question du rapport entre la psychologie qu'on a et ce qui nous arrive dans l'oraison. On est bien la même personne, mais il ne faudrait surtout pas s'imaginer que, par exemple, les gens les plus bavards, ou les plus agités, ou les plus démonstratifs, ou les plus tout ce qu'on veut, sont la même chose dans l'oraison. Et inversement. C'est beaucoup plus riche que cela. Je m'arrête là. Je rappelle juste encore une fois que ce que je cherche à faire, c'est à décrire, et si donc je décris, c'est forcément partiel. C'est ce que je vois, c'est des aspects, c'est des traits, qui me semblent quand même des traits qui dépassent de beaucoup mon expérience, là, heureusement, mais qui ne peuvent pas tout dire. Et en plus, tenter de décrire, c'est aussi adopter une façon de décrire qui peut-être ne rejoint pas tout le monde. Pourquoi je dis ça? C'est que, encore une fois, il ne s'agit pas d'épier, il ne s'agit pas de contrôler, il ne s'agit pas de checker quoi que ce soit de notre oraison. En revanche, nous dirigeons nous-mêmes dans ce qui a toujours déjà commencé de l'oraison, être capable de reconnaître, dans les différents sens de reconnaissance, être capable de reconnaître ce qu'il en est de notre façon d'aller avec Dieu, ça c'est important.
Car tu es ma chapelle, ma maison, ma demeure. À tout moment j'appelle, quand je trouve fermée la porte de.
Vous avez écouté la 5e rencontre autour de l'oraison proposée dans le cadre de l'école d'oraison par Zoom. Vous pouvez nous rejoindre pour ces soirées mensuelles. Écrivez-nous à écoleoraisonzoom, tout attaché, à commercialgmail.com pour recevoir les liens de connexion. Cette activité est sans frais. Plus d'informations au sujet des écoles d'oraison animées par la famille du Carmel au Québec sur le site www.lecarmel.org. La poésie âme ne te cherche qu'en moi de Sainte Thérèse de Jésus est mise en musique et interprétée par frère Pierre Eliane. Vous pouvez la retrouver sur les plateformes d'écoute en ligne. Merci de nous avoir écoutés.